9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et oui, à votre santé et tous les jours, on s'occupe de votre santé sur Beurre FM. 9h-10h, on va parler d'anxiété ce matin avec mon invité, le docteur Jean-Luc Duché. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Médecin psychiatre, spécialiste de la dépression et de l'anxiété. Vous publiez « Vaincre son anxiété par soi-même », l'anxiété en 100 questions et réponses aux éditions Odile Jacob. J'ai appris un mot dans votre livre, c'est-à-dire que le mot « panique », ça vient d'un dieu grec.
Absolument.
Et comme son nom l'indique, qu'est-ce qu'il faisait, ce dieu grec ?
Il effrayait les gens, il était mi-homme, mi-chair, et le fait de le voir déclenchait la panique. Et il jouait d'un instrument.
Il jouait de la flûte. Alors voilà, je me suis dit que c'était de la flûte de Pan, dont le mot panique,
voilà, tout à fait.
À chaque fois que les gens le voyaient arriver. Alors le plus souvent, on ne sait pas vraiment pourquoi on se fait du souci. La vraie raison reste obscure. De nombreuses personnes ont tendance à se faire du souci régulièrement, et sans que cela soit justifié. Pourquoi est-ce qu'ils font du souci, ces gens-là ?
Parce qu'ils ont l'habitude de toujours imaginer le pire, d'anticiper les choses. Au lieu de vivre l'instant présent, ils vont imaginer que voilà, les choses vont changer, il va se passer quelque chose, ça va être une catastrophe.
Voilà, l'anxieux imagine toujours le pire.
Voilà.
Voilà, ce matin, moi, Fatima Zora est arrivée, je ne la voyais pas, je me suis dit, elle est bloquée dans le bus, voilà. Elle ne va pas arriver. Elle a forcément été enlevée par des envahisseurs ou... C'est ça un anxieux ?
C'est une forme d'anxiété, il y en a d'autres. Ça c'est ce qu'on appelle le trouble anxiété généralisé, c'est-à-dire les gens qui sont du souci de manière excessive pour
le
moins que nécessaire.
TAG.
Voilà.
Le TAG.
TAG.
Trouble d'anxiété généralisé. Est-ce que l'anxiété c'est une maladie de l'imaginaire ?
C'est
pas une maladie imaginaire, hein, mais une maladie de l'imaginaire.
Un petit peu, finalement, oui. On peut le dire. C'est le fait d'anticiper des choses, de voir des choses, de supposer que si je fais pas tel comportement, il va arriver une catastrophe, alors qu'il n'arrivera rien. Ça, c'est davantage dans les tocs.
Ouais.
D'imaginer que l'autre est en train de me regarder et de me juger, alors que l'autre est dans sa propre bulle à lui et ne pense pas forcément...
Là, il y a quelqu'un qui est en train de... ne soyez pas anxieux. Tout va bien se passer. Il prend juste une photo, docteur. Ah, j'ai eu un peu d'anxiété dans votre regard. Elle demandait à l'instant ce qu'il faisait. Hein.
Oui, mais il n'y avait pas d'anxiété. C'était juste un questionnement.
Un questionnement. Par exemple, vous prenez des gens qui ont une attitude qu'on n'arrive pas à expliquer. Des gens qui parfois ont l'air hautains, fiers,
oui.
Distants.
Et souvent, ce sont des anxieux sociaux. Des gens qui, finalement, attachent beaucoup d'importance au jugement des autres. Et au lieu d'être à l'aise, au contraire, ben, ils se bloquent dans une espèce d'armure, de cuirasse, et qui donne ce côté souvent hautain. Et souvent, ils impressionnent les gens.
On a l'impression qu'ils se la pètent, mais ce n'est pas du tout ça, en fait. C'est complètement l'inverse.
Bien souvent, c'est complètement l'inverse. C'est une cuirasse de protection.
Pourquoi est-ce qu'il est important de bien comprendre son anxiété quand on est anxieux, et comment est-ce qu'on fait pour la comprendre ?
L'intérêt de comprendre pourquoi on est anxieux, ça va nous permettre déjà de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière et de pouvoir travailler dessus. Le problème, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est souvent que l'anxiété, c'est une peur sans objectif défini. En fait, il faut aller le chercher et on va trouver pourquoi on est anxieux. Et lorsqu'on trouve, très souvent, on va banaliser les choses en se disant « mais finalement, ça ne mérite pas que je m'angoisse autant ».
Quelle est la différence entre quelqu'un qui est anxieux et quelqu'un qui ne l'est pas ?
Alors, je dirais pas ça comme ça parce que tout le monde peut être anxieux à un moment ou à un autre.
Donc, ça veut dire que ça, on va dire que c'est normal.
Il y a une anxiété qui est normale et qui est même nécessaire. Je pense que l'humanité n'existerait pas si l'anxiété n'existait pas. Hein, puisque quelque part, ça nous empêche de faire certaines choses qui vont être contraires à notre intérêt. Et que ce soit au niveau individuel ou au niveau de toute une société. Donc, l'anxiété peut être utile et nécessaire. Le problème, c'est lorsqu'elle devient invalidante, qu'elle nous empêche de nous réaliser, de faire ce qu'on a envie, qu'elle nous bloque dans nos décisions. Et là, par contre, ça devient un vrai problème.
C'est ça, c'est en fait se faire du souci de façon permanente pour tout et rien qui gâche la vie, qui n'est pas, d'une certaine façon, normale, si on peut employer le mot.
Qui est excessif. En fait, on va parler d'anxiété pathologique des moments où il y a une altération importante de la qualité de vie.
C'est-à-dire, alors on va prendre un exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler une anxiété normale et une anxiété pathologique ?
Si je suis limite et que j'ai peur d'être en retard, on est dans une anxiété normale. Si par contre cette anxiété déclenche une panique qui fait que je perds mes moyens, que je vais me tromper de rue, de bus ou de métro, là elle devient panique et invalidante. Puisqu'elle m'a empêché de faire, au contraire, au lieu de m'aider, de m'inciter à avancer, elle m'a amené sur des voies qui m'amènent à des difficultés, des problèmes.
Prenez l'exemple des gens, par exemple, qui nous écoutent ce matin, qui sont dans les embouteillages, et qui disent, voilà, bon, voilà, je suis bloqué.
Voilà.
Donc, il y a deux attitudes.
Bah, soit je me dis, voilà, je vis l'instant présent, j'écoute
j'écoute leur FM, je suis voilà. Bien, de toute façon j'arriverai bien un jour.
Voilà, et puis il y a ceux qui imaginent toutes les conséquences, que quelque part leur patron va remarquer qu'ils sont en retard, ils vont peut-être, alors l'imagination peut aller très loin, ce que vous disiez tout à l'heure, une maladie de l'imaginaire, hein, ils vont imaginer qu'ils vont perdre leur boulot carrément.
Ils vont déclencher un film, c'est ça?
Exactement, scénario catastrophe. Et je vais perdre mon boulot, et comment je vais pouvoir nourrir mes enfants, et demain, voilà, et je vais être responsable de l'échec de toute ma famille et des conséquences que tout le monde va avoir. Ça, c'est au maximum, hein, on est d'accord.
Mais ça peut aller jusque-là, voilà.
Chez certains, ça va jusque-là.
Quelle est la différence entre l'angoisse et l'anxiété?
Alors, c'est une... Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de différence. Hein. L'angoisse, ça vient du latin angusta, ça veut dire que cette angoisse, c'était plus le côté physique, le fait de sentir le resserrement au niveau de la gorge, hein, sentir la gorge serrée, ce que beaucoup de gens angoissés ont. Et l'anxiété, c'était plus la dimension psychique, intellectuelle.
Et aujourd'hui, en fait, vous expliquez que finalement, les deux mots se confondent et que l'angoisse a cédé la place à l'anxiété. C'est-à-dire qu'on emploie le mot anxiété pour parler d'angoisse aussi,
tout à fait.
Également.
Tout à fait.
Quel est le mécanisme central de déclenchement de l'anxiété? Expliquez-nous comment ça fonctionne, finalement, pour les gens qui sont anxieux.
Alors, tout dépend le type d'anxiété. On a parlé du TAG, c'est effectivement le fait qu'ils vont se faire du souci de manière excessive. Ils vont imaginer quelque chose qui ne sera pas forcément et probablement pas. Mais il y a aussi, donc, on a parlé de l'anxiété sociale. Il y a aussi les attaques de panique, hein, les paniqueurs, ceux qui font des attaques de panique avec le sentiment qu'ils vont mourir.
Alors, explique-nous ce que c'est qu'une attaque de panique, parce que il y a peut-être des gens qui ont fait des attaques de panique qui savent même pas qu'ils ont fait une attaque de panique. Moi, j'en ai eu un jour en studio, finalement, et ça avait tout l'air d'être un infarctus.
Exactement.
Pour tout vous dire, on a appelé le SAMU.
Voilà.
Et c'est là où j'ai compris la force du psychique, et je me suis dit, donc le gars, il avait le trac. Il s'est fait une attaque de panique. Mais je vous dis, on a eu le pompier, le SAMU, enfin, on a tout eu. Et en fait, le gars a fait juste une attaque de panique. Mais pour vous dire que c'était terriblement angoissant pour tous les gens qui étaient autour.
C'est terriblement angoissant pour ceux qui sont autour, c'est terriblement angoissant pour celui qui le vit, parce qu'il a l'impression qu'il va mourir. Et souvent, une des causes, c'est-à-dire on se fait du souci, on commence à se bloquer à mal respirer, souvent faire ce qu'on appelle une hyperventilation, c'est-à-dire on respire rapidement, hein, c'était ce qu'il faisait.
voilà. C'était complètement ça.
Et à partir de ce moment-là, on modifie notre pH sanguin, on fait fuir du gaz carbonique, on modifie notre pH sanguin, et tout ça, c'est tout à fait physiologique, et on va avoir des symptômes de vertige, de nausées, de vomissements.
Mais donc vrais,
absolument.
Qui sont vrais. Hein.
Absolument.
Ces symptômes-là, ils sont déclenchés par...
Absolument. Ces symptômes sont déclenchés par l'hyperventilation. Du reste, la plupart des gens, si vous leur demandez d'hyperventiler comme ça, en moins de 30 secondes, une minute, beaucoup de gens vont ressentir les symptômes d'une attaque de panique. Mais là, ils sont dans une situation où c'est vous qui leur avez demandé, donc c'est une situation expérimentale. Alors que s'ils le font sans savoir ce qui se passe, ils vont avoir l'impression qu'effectivement, ils sont en train de mourir.
Et la personne avait le sentiment, puisqu'il a appelé les SAMU,
voilà.
C'est-à-dire que je meurs, je suis en train de mourir, vous ne faites rien.
Voilà, mais il faut savoir qu'il y a 30% des gens qui font des attaques, 30% des gens qui font des attaques de panique, mais il y en a seulement 1 à 2% pour qui c'est un souci. C'est-à-dire que la plupart, 28% des gens, finalement, font des attaques de panique, peut-être moins fortes, j'en sais rien.
Mais genre comment? C'est-à-dire qu'on est dans le métro, on est... Ouais. Donnez un exemple de ce que ça peut être différemment, une attaque de panique.
Mais c'est simplement ce qu'on se dit. Le problème, c'est pas l'attaque de panique, c'est la peur d'en faire ou d'en refaire. Et à partir de ce moment-là, je ne vais pas aller dans des endroits où j'en ai fait la dernière fois. Je ne vais pas prendre l'ascenseur et je vais devenir claustrophobe parce qu'un jour, j'ai commencé à sentir des symptômes évoquant cette attaque de panique. Hein, je ne vais pas aller dans un sous-sol où...
D'accord, donc là, on fait une stratégie d'évitement.
Voilà, voilà.
On ne se confronte pas à ça.
En fait, le problème, ce n'est pas l'attaque de panique. Une attaque de panique, ce n'est pas dangereux. Personne n'en est jamais mort. C'est ce que je dis à mes patients. 30% de la population qui en fait, ça fait 2 milliards d'individus. Si c'était une maladie mortelle, on le saurait. On n'en meurt pas.
Mais donc qu'est-ce qui est dangereux, alors, dans l'attaque de panique?
Alors, dangereux, rien.
C'est l'idée qu'on s'en fait, c'est ça?
Qu'est-ce qui est problématique? C'est pas dangereux. C'est problématique.
Qu'est-ce qui est problématique, docteur?
C'est effectivement la peur d'en refaire. Et donc, avoir un comportement d'évitement, et je vais éviter de plus en plus, au point de ne plus sortir de chez moi éventuellement. Et je deviens agoraphobe. C'est ça, le problème. Et c'est, je vais mettre toute une stratégie d'évitement pour éviter d'en refaire. Mais l'attaque de panique en soi, c'est pas dangereux. Les gens en ont peur, mais c'est... Dans le temps, on parlait souvent en France, uniquement en France, de crise de spasmophilie. C'était des attaques de panique. Et les gens, finalement, on leur disait, mais vous avez fait une crise de spasmophilie. Ils étaient rassurés par le diagnostic. Et s'ils en faisaient, je refais une crise de spasmophilie. Voilà. Ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas d'anxiété. En fait, c'est la suranxiété qui devient dangereuse. Et derrière, bien sûr, ce qu'on va retrouver souvent, c'est la peur de mourir. Si les gens n'avaient pas cette angoisse face à la mort, c'est cela qui, finalement, vont le plus souvent déclencher un trouble panique derrière.
Alors,
trouble panique, ça veut dire la peur d'en refaire. C'est pas le fait d'en faire. C'est la peur d'en refaire, le trouble panique.
Donc, il y a l'attaque.
L'attaque de panique, c'est une crise d'angoisse aiguë très forte qui, effectivement, donne des sensations très pénibles, mais qui n'est pas dangereuse. Et le problème, c'est la peur de refaire et toute son, l'organisation de sa vie pour éviter d'en refaire.
Est-ce qu'on sait comment on devient anxieux? Comment est-ce que l'anxiété s'installe?
Ça peut être éventuellement un conditionnement par les parents. Je veux dire, si vous avez une mère qui vous dit toujours, j'ai une mère, mais ça pourrait être un père, mais plus souvent c'était la mère, qui vous dit toujours, fais attention, couvre-toi bien, tu vas avoir froid, prends pas froid. Je veux dire que quelque part, on évoque des risques, des dangers, et on crée un climat dangereux. Et donc l'enfant va soit se rebeller contre ça, et tant mieux pour lui, soit au contraire accepter ces paroles d'une personne en qui il a confiance. Et c'est vrai qu'on va favoriser à partir de ce moment-là une anxiété. Bon, il y a des facteurs aussi génétiques, mais qui ne sont pas, à mon idée, prépondérants. Et puis c'est l'habitude, c'est... L'anxiété, une difficulté... Enfin, un des problèmes de l'anxiété, c'est qu'il a tendance à augmenter. Si on fait rien, c'est quelque chose qui a tendance à augmenter avec la vie. Soit on va augmenter l'évitement, et soit on va éviter...
En rien, c'est ne pas faire pour pas être confronté finalement à sa peur.
Oui. Et c'est l'inverse qu'il faut faire. Parce que si j'affronte ma peur, je vais m'apercevoir qu'il se passera rien. Mon anxiété, au bout d'un moment, va s'éteindre. Et assez rapidement en général. Mais les gens ont peur qu'effectivement, elle ne s'arrête pas, que ce soit de pire en pire.
Pourquoi est-ce qu'il est important que l'entourage des personnes qui sont anxieuses, déjà les prennent au sérieux, ne minimisent pas ce que c'est que l'anxiété et ne disent pas finalement « t'en fais pas, ça va bien se passer » ou « de toute façon t'as rien du tout, c'est dans ta tête ».
Oui, mais ça c'est pas efficace. Ça donne le sentiment d'être pas reconnu, d'être pas compris, d'être pas entendu. Donc c'est plutôt l'inverse, ça renforce l'anxiété. Ce qu'il faut faire, c'est aller chercher pourquoi tout de suite je suis anxieux. Qu'est-ce qui tout de suite fait mon anxiété? Et là-dessus, je vais pouvoir réfléchir et raisonner dessus. Parce que c'est une autre zone du cerveau. Si je raisonne, je suis dans le cerveau préfrontal et l'angoisse, eh ben, c'est une autre zone du cerveau.
Bon, docteur Jean-Luc Duché, dans votre livre « Vaincre son anxiété par soi-même », vous donnez des techniques et des exercices à faire. Alors, comment est-ce qu'on appelle, par exemple, la technique de clarification? Alors, attendez, parce que je ne me rappelle plus comment ça s'appelle.
Clarification des idées anxiogènes.
Voilà, la technique de clarification des idées anxiogènes.
Voilà.
Comment on fait?
Alors, c'est une technique qui marche bien, mais il faut aller chercher, prendre conscience dès que notre anxiété commence. Il faut repérer tout de suite, je suis anxieux. Et si on ne l'a pas fait tout de suite, il faut se dire, ce matin, est-ce que j'étais anxieux? Non. À midi, oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre midi et ce matin qui a été... Donc, l'événement. On cherche l'événement déclenchant. À quel moment? Ça peut être au téléphone. J'étais au téléphone. Et là, d'un seul coup, je me suis anxieux. Mais je me suis senti anxieux. Mais il s'est passé quelque chose. Ça peut être, peut-être, j'ai entendu au téléphone une ambulance qui passait. Et à ce moment-là, j'ai pensé à quelqu'un de proche qui est sur la route. Et j'ai peur que cette personne...
Il lui soit arrivé quelque chose.
Voilà, exactement. Donc à ce moment-là, je vais enchaîner. C'est tout un enchaînement. Mais si je prends conscience du moment où ça a commencé... Là, à ce moment-là, je vais me souvenir, oui, bien le point déclenchant, le point de déclenchement, c'est l'ambulance qui passait, la sirène de l'ambulance. Et à ce moment-là, je vais pouvoir retrouver l'idée en premier, et me dire, raisonner là-dessus en me disant, bah non, elle est arrivée, maintenant je suis tranquille, alors que je vais garder mon anxiété parce que je ne sais pas pourquoi. C'est ça la technique de clarification des inanxiogènes. Il faut aller chercher qu'est-ce qui va déclencher l'anxiété. Et là, au tout début, ou quand ça l'augmente. Mais si c'est au tout début, c'est encore mieux.
Donc, on arrive à localiser que finalement, c'est la sirène de l'ambulance qui est à l'origine.
Dans cet exemple.
Voilà, dans cet exemple-là. Mais qu'est-ce qu'on se dit sur l'ambulance, alors, à ce moment-là, se raisonner?
Mais bien souvent, il n'y a même pas besoin de se dire quoi que ce soit. Parce que le simple fait de prendre conscience que c'est ça, cet événement qui a déclenché est suffisant parce qu'on peut le relativiser. Mais qu'est-ce qu'on peut se dire? Eh bien, si jamais ça persiste, on va essayer de trouver des hypothèses alternatives. Mais peut-être que cette personne est prise dans un embouteillage, peut-être qu'elle a préféré s'arrêter parce qu'elle était fatiguée sur la route, donc s'arrêter sur une aire de repos. Donc des choses qui vont être éventuellement rassurantes et en tous les cas vont diminuer la vision qu'on en avait au départ, qui était la vision purement catastrophique. Là, j'ai d'autres hypothèses, donc ma vision purement catastrophique, au lieu de faire 100% de ce qui était la possibilité, va devenir peut-être à 30%.
N'ayez pas peur. Alors, faut pas que je dise n'ayez pas peur, mais soyez rassurés, ne soyez pas anxieux. Composez le 01 53 48 3000 si vous avez des questions à poser au docteur Jean-Luc Duchamp. On parle de l'anxiété ce matin. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent avoir manifesté de l'anxiété s'ils ne sont jamais passés à la radio ou d'avoir à poser une question devant tout le monde. Ça arrive.
Tout à fait.
Ça, c'est normal.
Alors, ça peut être le trac.
Ouais.
Le trac, c'est j'ai de l'anxiété. Je me sens tendu avant, mais lorsque je suis en situation, voilà, ça passe tout de suite en quelques secondes. Et là, après... Mais à la limite, le trac peut être positif parce qu'il me permet d'être, avec toutes mes ressources, vigilant, prêt à répondre aux questions.
On parle de l'anxiété, donc vaincre son anxiété par soi-même. C'est le livre du docteur Jean-Luc Duché qui m'en a invité ce matin.
À votre santé, reviens dans un instant. Tous les samedis, ne manquez pas Dessus de table. Dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani, tous les samedis de 9h à 10h sur Beurre FM. À votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
On parle de l'anxiété ce matin avec le docteur Jean-Luc Duché, qui est médecin psychiatre, spécialiste de la dépression et de l'anxiété. Et vous publiez « Vaincre son anxiété par soi-même », l'anxiété en 100 questions et réponses aux éditions Odile Jacob. Quels sont les symptômes de l'anxiété, pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être se posent la question?
Les symptômes vont être souvent un peu les mêmes pour la même personne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de symptômes, hein, il y en a plus de 100, donc il n'y a pas de souci pour en trouver. Mais on a un peu notre profil anxieux, c'est-à-dire que quand on est dans une situation d'angoisse, alors il y a des gens qui auront des vertiges, il y en aura d'autres qui auront la boule au ventre, d'autres qui auront la gorge serrée, d'autres des tremblements, d'autres... voilà. C'est un petit peu les mêmes qu'on va ressentir à chaque fois. Mais après, ça peut être tout et n'importe quoi, il n'y a pas de limite à l'anxiété.
Bien. On a vu tout à l'heure une des techniques, la technique de clarification des idées anxiogènes. Vous expliquez dans votre livre que si on veut traiter efficacement son anxiété, il faut comprendre les raisons et il faut repérer la DDT.
Oui.
Donc, c'est la...
Date de début du trouble. À quel moment j'ai commencé à être anxieux? Qu'est-ce qui a été? Ce que j'en disais tout à l'heure, c'était...
On repère, on en revient,
ça commençait, voilà. Et c'était bien pendant que j'étais en train de téléphoner. Donc c'était pas le téléphone, mais c'était la sirène de l'ambulance ou des pompiers que j'ai entendu à ce moment-là, qui m'a fait penser à la personne proche qui était sur la route et à ce moment-là le souci que je me faisais pour elle parce que elle m'avait pas encore appelé alors qu'elle aurait dû me rassurer depuis un moment.
Donc, si on se souvient de l'événement qui déclenche, en quoi est-ce que ça va nous aider? Expliquez-nous ça.
Parce que ça permet de retrouver le cheminement de nos pensées. Et donc, les pensées qui nous ont angoissés au départ.
Mais il y a des pensées automatiques, vous voyez.
Ce sont des pensées automatiques, effectivement. C'est-à-dire que j'entends la sirène, automatiquement, je me dis, tiens, je pense à mon ami qui est sur la route et qui ne m'a pas rappelé. Et donc, s'il ne m'a pas rappelé, c'est qu'il a dû lui arriver quelque chose. Ça, c'est une pensée automatique. Le fait, et il ne m'a pas rappelé, mais le fait de me dire, il m'a pas rappelé, c'est qu'il a dû lui arriver quelque chose. Là, je suis dans une pensée automatique.
Une pensée automatique, c'est quoi? C'est une pensée qui
surgit spontanément, sans que je réfléchisse, à la différence d'une pensée, d'une réflexion sur quelque chose, je suis en train de réfléchir, tiens, il m'a pas appelé, il a dû faire ci ou il a dû faire ça. Et justement, ce qu'on essaye de, lorsqu'on a pris conscience de cette pensée automatique, on essaye de mettre en place des pensées de réfléchir, d'autres pensées, d'autres hypothèses qui vont nous permettre de limiter la probabilité de l'événement qu'on avait présupposé au départ.
Alors, on va parler des vérificateurs. Par exemple, un vérificateur, qu'est-ce que c'est ?
Ce sont des gens qui vérifient sans arrêt n'importe quoi. Il y a des gens qui vont vérifier simplement leur porte, savoir si elles sont bien fermées, mais il y a des gens qui vérifient le gaz, l'électricité. Ils peuvent y passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
Car quelqu'un qui vérifie toute la journée que ses clés sont bien dans son sac, que son téléphone est bien dans son sac, que ses papiers sont bien dans son sac...
S'il le vérifie sans arrêt et s'il y passe beaucoup de temps, on est probablement dans un trouble obsessionnel compulsif, donc un TOC.
Un TOC, qui est une maladie de l'anxiété.
Qui est une maladie de l'anxiété. Là, c'est j'ai peur d'avoir perdu quelque chose. Donc, si je tout dépend de l'importance de la vérification. C'est toujours la même chose, si vous voulez. Hein, si je vérifie simplement une fois si j'ai bien fermé la porte, c'est pas déraisonnable, c'est un contrôle, c'est pas une vérification. Si je vérifie 3-4 fois, là déjà ça devient limite. Si je vérifie 10 fois si j'ai bien fermé ma porte, voir si je remonte pour vérifier, tout dépend le temps que je vais y passer.
Et là, je commence... Et ça vient d'où ça alors, finalement, c'est ce besoin d'être certain qu'on a bien fermé sa porte ou qu'on a bien éteint son robinet ou éteint son gaz.
Souvent, c'est l'idée, la peur des conséquences. Donc, il y a des gens qui sont perfectionnistes, donc il faut que tout soit parfait. Il y a des gens comme ça. Et puis, il y a des gens qui ont peur, effectivement, ils imaginent les conséquences si jamais ils n'ont pas fermé leur porte. Obligatoirement, il y a un voleur qui va venir et qui va... faire tout ce qu'il a à faire, voilà. Cela dit, en général, les voleurs, même si la porte est fermée, ils savent l'ouvrir ou passent par la fenêtre. Donc, c'est vérifier 10 fois si la porte est bien fermée n'est pas forcément nécessaire.
Mais pour le robinet, par exemple, c'est là.
Là, c'est je vais tout inonder.
Oui.
C'est toujours le scénario catastrophe, en fait. C'est je vais tout inonder, ça va passer chez le voisin. La catastrophe, scénario catastrophe.
Les clés, les gens qui checkent leurs clés en permanence.
C'est la peur de les perdre. Et donc à ce moment-là, je ne peux pas partir avec ma voiture, je ne pourrais pas rentrer chez moi. Mais le faire de temps en temps pour savoir, c'est pas anormal, c'est toujours le temps qu'on va y passer, qui est important et qui devient pathologique.
D'accord. Donc ça, comment on le prend en charge, par exemple ? Est-ce qu'il y a des médicaments pour... Alors, pour les vérificateurs ?
Les médicaments sur les vérifications, les anxiolytiques ne marchent pas beaucoup. Les antidépresseurs, qui ont souvent une indication, même dans le TOC, mais dans le type de vérification, sont moyennement efficaces. Ils marchent un peu, mais pas énormément. Le mieux, c'est les TCC, c'est d'affronter.
Alors les TCC, c'est ?
Thérapie cognitivo-comportementale. C'est-à-dire, je prends le problème, je m'attaque au comportement qui me pose problème et j'essaye de me déshabituer à ce comportement. Alors le pire du pire, c'est à la limite, je prends la situation inverse, c'est-à-dire moi je demande à mes patients de laisser goûter le robinet goutte à goutte avant qu'ils partent. Quand ils arrivent à faire ça, en général, ça devient très relativisant pour le fait d'avoir pas fermé son robinet. On ne se fait plus autant de soucis, on le vérifie une fois et puis c'est fini.
D'accord, donc ce qui veut dire qu'il y a des techniques qui sont très efficaces pour lutter contre ce genre de trouble.
Oui, surtout les vérificateurs, c'est quelque chose qu'on arrive en général assez bien à...
Les maniaques du ménage, de la propreté par exemple.
La propreté. Alors ça, souvent, ce qu'on va retrouver derrière, c'est la peur des microbes, la peur de la saleté, mais c'est souvent les microbes, et derrière, ça va être... Alors là, ça devient plus aléatoire, ça dépend des gens. Chez certains, c'est d'attraper une maladie, les conséquences, et d'en être responsable. Il y a beaucoup de la responsabilité dans l'anxiété. Je suis responsable de ma maladie. Mais je suis responsable d'avoir perdu mes clés, de ce voleur qui est rentré chez moi, d'avoir inondé le voisin, tout ça. Donc la responsabilité est quelque chose de très important. La culpabilité, la responsabilité qui sont derrière sont très souvent très importants dans l'anxiété et jouent un rôle important.
On a vu tout à l'heure les personnes qui pouvaient paraître hautaines, voire même timides. Elles sont focalisées sur l'image que les autres d'elle.
Voilà, le jugement, la peur du jugement. Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? En imaginant bien sûr qu'on pense le pire négatif, et souvent dans la rue ils ne regardent pas parce qu'ils sont persuadés que les gens qui les regardent, que tout le monde les regarde en plus. Alors moi ce que je fais, je leur demande souvent, vous mettez des lunettes et puis vous regardez le soleil, et vous regardez si les gens vous regardent. Je leur dis, vous allez peut-être être déçus, mais probablement que vous allez voir que les gens ne vous regardent pas.
Ouais.
Effectivement, les gens sont dans leur chemin à eux et pas forcément toujours en train d'admirer, de regarder, d'évaluer. Et ce que je leur dis, vous-même, qu'est-ce que vous faites ? Alors bon, souvent, ils regardent leurs pieds, donc à ce moment-là, ou deux, trois devant. Mais on ne regarde pas forcément les autres, ou même si on regarde les autres, on n'est pas en train de penser, d'évaluer, de juger cette personne.
Plus peut-être difficile à traiter les personnes qui ont des troubles de l'endormissement et des troubles du sommeil, qui n'arrivent pas à s'endormir.
Alors, ça peut être pour plusieurs raisons. Il faut savoir qu'on dort comme on a vécu dans la journée. Donc, si j'ai vécu anxieux, ben, je dormirai mal, je dormirai anxieux. Ça, c'est déjà un premier problème. Si j'ai vécu stressé, je dormirai mal. Mmh. Hein. Donc, ça, c'est effectivement d'avoir une certaine qualité de vie tout au long de la journée pour qu'on s'endorme plus facilement. Et puis, il y a ceux qui ont peur de mal dormir. Et là, il y en a beaucoup qui ont peur. Ben, mais voilà, c'est toujours le scénario catastrophe.
Mais qu'est-ce qui se joue au niveau de l'endormissement, finalement ? C'est quoi ? C'est la peur de ne pas se réveiller, c'est...
Alors, il y a des gens, effectivement, chez qui on va trouver ça. Mais là, ça sera plutôt des gens qui ont l'angoisse de la mort. Mais le plus souvent, ça va être les gens qui surveillent surtout. Ils ont peur de ne pas s'endormir. Il y a plus de gens, probablement, qui ont peur de ne pas s'endormir que de gens qui ont peur de ne pas se réveiller.
Mmh. Hein?
Les gens qui ont peur de ne pas se réveiller, souvent, c'est l'angoisse de la mort derrière. Et si je ne me réveillais pas
Donc, les gens qui ont peur de ne pas pouvoir dormir, ça vient d'où ?
Ça peut être l'angoisse de la mort, des gens qui ont une angoisse forte de la mort. Donc à ce moment-là, il faut travailler directement sur l'angoisse face à la mort. Ce qui est tout à fait possible, ce que les gens ne supposent pas, mais on peut réfléchir et essayer de relativiser l'angoisse de la mort. On a tous un certain questionnement par rapport à la mort, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais derrière, on n'est pas obligé d'en paniquer, quoi.
Et les gens qui ruminent pendant la nuit, leur journée, en fait, qui ruminent, qui se font des films et qui ne s'endorment pas.
Alors ça, c'est une autre catégorie.
Et donc, ça les maintient éveillés, en fait.
Et voilà. Mais c'est effectivement qu'ils ont été stressés probablement toute la journée. Mais là, c'est ceux qui ruminent la journée. Hein, j'ai fait ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça. Alors, on est souvent dans l'anxiété sociale.
Alors, l'anxiété sociale, est-ce qu'on l'a définie ?
L'anxiété sociale, c'est ce qu'on...
C'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure.
Voilà, c'est la peur du regard, du jugement des autres, c'est ce qui alimente l'anxiété sociale.
Comment et qu'est-ce qui fonctionne, les techniques efficaces pour justement favoriser l'endormissement ?
D'abord, il y a la relaxation, qui est une technique, la respiration abdominale. De toute façon, la respiration abdominale marche quasiment sur toutes les formes d'anxiété. Encore faut-il bien la faire. Hein, il faut savoir qu'on respire par le ventre. C'est la première chose qu'on fait en venant au monde, c'est de respirer par le ventre. C'est pas de crier, parce que pour crier, un enfant, il a besoin d'air dans les poumons. Donc il a respiré d'abord.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est par le ventre qu'on respire.
Jusqu'à l'âge... Alors, j'avais fait une étude avec des professeurs des écoles, et à peu près jusqu'à l'âge de 6, 7, 8 ans, les jeunes respirent par le ventre. Et après, ils le perdent. Je vais dire au moment de l'âge de raison, à peu près. Hein. On n'est pas... Je ne peux pas être formel, parce qu'on n'a pas fait les choses de manière scientifique et rigoureuse, mais c'est à peu près à ce moment-là que ça se passe. Et là, à ce moment-là, eh bien, vous regardez, les enfants ne respirent plus par le ventre, ils respirent par le haut. Et voilà. Et le problème, c'est que si je respire par le haut, je vais remonter mon diaphragme, donc quelque part, je vais serrer davantage, alors que si je respire par le bas, je vais relâcher, je vais aspirer mon diaphragme vers le bas, donc je vais lâcher prise au niveau de mon diaphragme. Et la boule au niveau du creux épigastrique va se relâcher quasiment immédiatement.
Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que si on veut bien respirer, il faut respirer par le ventre.
Oui, ça c'est la meilleure solution, mais les orientaux le savent très bien. Hein. C'est quelque chose qu'on a perdu et qu'on ne sait plus retrouver.
Peut-être que la plupart des gens ne se posent pas la question de savoir s'ils respirent par le ventre ou par les poumons.
Non. Mais qu'ils essayent de repérer, ils vont voir. Et justement, l'anxieux, il y a une oppression thoracique très souvent, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il va respirer de moins en moins. Et moins il respire, plus il fait remonter son diaphragme, plus il respire par le haut, et plus il a une respiration thoracique qui va devenir de plus en plus compliquée puisque le thorax se referme parce qu'il est serré. Et on arrive à des gens qui respirent pratiquement pas, et qui font ce qu'on appelle des blocs-nez. On les voit, ils sont en arrêt respiratoire.
Des
blocs-nez. Voilà. Comme apnée, mais c'est bloc.
Ouais.
Voilà. Et qui sont crispés, tellement crispés qu'ils ne respirent plus. Et là, ce qu'il faut, c'est absolument retrouver la respiration abdominale. Mais pour retrouver la respiration abdominale quand on en a besoin, faut s'entraîner régulièrement. Je veux dire, c'est pas spontané, on sait plus faire. Donc c'est un réapprentissage, et surtout par le nez, pas par la bouche, comme on voit souvent en faire, parce que là, on risque de se mettre en hyperventilation et de déclencher une attaque de panique. Donc ça ne va pas être agréable.
Bien.
Donc il faut respirer lentement.
Et ce sont les psychiatres qui apprennent à respirer par le ventre ?
Ça peut être n'importe qui, mais effectivement, ça fait partie des techniques de gestion de l'anxiété.
Mmh. Les chanteurs font ça, enfin, respirer avec le ventre, beaucoup, les acteurs aussi qui ont des longs textes à déclamer.
Alors là, c'est peut-être pour...
Ce sont des techniques de
souffle.
De respiration. 01 53 48 3000, on parle de l'anxiété ce matin. Si vous souhaitez poser vos questions au docteur Jean-Luc Duchin, bien vous pouvez le faire. 01 53 48 3000, à votre santé jusqu'à 10h sur Beurre FM.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors mon invité ce matin, c'est le docteur Jean-Luc Duchin qui est psychiatre spécialiste de la dépression et de l'anxiété. Vous avez écrit un livre sur la dépression d'ailleurs, qui s'appelle « La dépression en 60 questions ». Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de vaincre son anxiété par soi-même ou comment la surmonter au quotidien. Et l'éditeur, c'est Odile Jacob. Vous posez vos questions 01 53 48 3000. C'est Farida qui attend au standard. Farida, bonjour et bienvenue.
Allô?
Farida. Oui, bonjour Farida.
Bonjour. Ça me fait plaisir de vous avoir au téléphone.
Eh ben, vous savez que le plaisir est partagé. Je me demandais quand vous allez nous appeler, Farida.
Eh ben, écoutez, j'ai toujours essayé, j'y suis jamais arrivé.
Bon, Farida, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui? Dites-nous.
Eh ben, moi, vous parliez des angoisses, et moi, j'ai eu des angoisses. Ça fait 40 ans que j'ai ça.
D'accord. Alors, comment vous savez que vous avez des angoisses?
Ça me fait une oppression sur la poitrine, ça me fait une boule à l'estomac. J'ai l'impression que je vais me trouver mal, que je vais mourir, comme disait le docteur.
Bon. Et qu'est-ce que vous faites pour vos angoisses, alors, plus d'écouter Beurre FM?
J'écoute toujours Beurre FM.
Bon, voilà, déjà.
Ça, c'est sacré.
Comment vous les prenez en charge, vos angoisses, Farida?
C'est grâce à mon fils, un peu, hein. Parce que quand je dis, par exemple, je suis en voiture, je lui dis, oh là, je me sens mal, je vais mourir. Il me dit, oh non, tu vas pas mourir, il y a 40 ans que t'as ça, ça suffit.
Et ça fonctionne? Ça marche avec vous?
Oui, avec lui, ça marche. Mais avec moi toute seule, j'ai l'impression que je vais mourir. Et c'est désagréable.
Mmh. Il faut expliquer aux gens ce que c'est, parce que les gens qui n'ont pas d'angoisse ne peuvent pas comprendre ce que c'est. Alors, dans le cas de Farida, docteur, c'est quoi? C'est une attaque de panique? C'est...
Tout à fait.
Oui,
c'est ça.
C'est une attaque de panique, oui.
Mmh. Avec un début brutal, hein, ça monte d'un seul coup, ou très rapidement, en quelques minutes. Et ça va s'aggraver avec tous les symptômes qu'elle décrit formidablement bien.
Moi, c'est dû à un choc. Mon fils, il avait 3 ans, il s'est fait mort par un berger allemand. Et ça s'est déclenché 3 mois après.
Alors,
c'est bien parce que déjà, en tout cas, Farida met un début de déclenchement de ses angoisses.
Oui. Ça, c'est mon début.
Oui. Alors, c'est intéressant de repérer la date de début. Après, souvent, les gens ont des hypothèses au départ. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas toujours la bonne hypothèse. Souvent, on s'aperçoit que dans le déclenchement des attaques de panique, c'est qu'il y a quelqu'un qui est mort dans l'entourage. Donc, soit un voisin, soit voilà. Et
oui,
donc,
il y a une voisine qui est morte, qui avait 104 ans. Ça m'a complètement retourné aussi.
Voilà. L'explication, elle peut être là aussi. C'est ça que vous
voulez
dire.
Oui, parce que la morsure du chien met en danger la vie de l'enfant. Hein, donc
ah
là,
oui,
c'est...
oui, il lui avait mordu, il lui avait coupé l'oreille, il l'avait attrapé à la gorge, vers le nez, il aurait pu mourir.
Voilà, donc il y a ça aussi qui peut avoir, et qui nous rappelle que finalement on est mortel. Et à partir de ce moment-là,
je sais qu'on est mortel.
Oui, mais
on a toujours peur.
Voilà,
c'est bête.
Mais souvent, j'allais dire, on est mortel, mais on essaye de l'oublier.
Et puis moi j'arrive pas à l'oublier.
Et voilà.
Quand on est mortel.
Et donc j'allais dire tous ces événements autour de vous à ce moment-là ont certainement déclenché la conscience qu'on est vraiment mortel.
Oui. Malheureusement, on est passagé sur Terre.
Bon, restez avec nous et puis écoutez Beurre FM, Farida.
Oui. Je vous remercie de votre confiance et continuez comme ça. Vous êtes super formidable.
Je vous fais un gros bisou, Farida.
Moi aussi, je vous fais un gros bisou.
À bientôt. Mohamed est avec nous au 01 53 48 3000. Mohamed, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Philippe.
Bonjour Mohamed.
Déjà, ça fait plaisir de vous avoir en ligne.
Eh bien, écoutez, le plaisir est partagé.
Ouais. C'est gentil. Le problème de l'anxiété, là, je me gare. Ça fait 2 ans que je souffre avec ça. Et c'est suite à 2-3 fois dans les urgences où j'ai été à l'hôpital, que les médecins plutôt, ils ont réussi à diagnostiquer ce problème. je pensais que c'était un problème cardiaque. Et non, c'était pas ça. Et à la fin, ils ont dit que si vous travaillez dans une entreprise, vous avez des responsabilités, vous tapez le périph qui n'est jamais fluide, que des raisons X, Y, de la paperasse, les comptables et compagnie. Et ça déclenche, donc ça fait 2 ans. Le problème, c'est qu'ils m'ont prescrit un traitement qui est pas vraiment terrible, qui vous donne des idées suicidaires, apparemment, je sais pas quoi, donc je l'ai jamais pris. Mais ça s'est terminé par une mâchoire serrée. Par exemple, tous les 2-3 fois par semaine, j'ai les dents qui sont serrées toute la nuit, et j'ai du mal à décontracter tout ça, ou je sais pas comment dire.
Alors, docteur, parce que là, je vous le voyez pas, Mohamed, mais le docteur Jean-Luc Duché réagit en même temps que vous parlez. À quoi ça vous fait penser?
Il y a probablement des éléments qui rappellent un trouble panique, hein, puisqu'on a. Et c'est vrai que les benzodiazépines, d'abord, ont des inconvénients. Il y a une habituation. Il y a aussi une certaine donc dépendance qui peut se faire. Il ne marche pas vraiment sur.
Sur l'angoisse.
Sur certaines angoisses, hein, celui qui se fait du souci.
Ouais.
Voilà, mais sur l'attaque de panique, c'est moins efficace.
Vous nous expliquez les mâchoires la nuit
Je crois que ce qu'il décrit est très bien, c'est-à-dire qu'il décrit qu'il est dans un état de contraction, mais bon, il repère les mâchoires, mais probablement que cette contraction est aussi au niveau des muscles, peut-être des épaules, de la nuque, de l'abdomen et tout ça.
En fait, moi, j'ai trouvé exactement. Je suis quelqu'un un peu minutieux. Je fais des recherches, je regarde tout, tout en faisant très attention sur ce que je lis, quelque part, j'ai exploité mon corps de travailler sur ce que je ressens. Et vous savez, j'étais voir 2 associations aussi qui ont des psychologues et qui parlent. Moi, j'ai essayé d'arriver un tout petit peu à une petite solution. S'il y a moyen, moi j'arrive pas à trouver une association. On a plusieurs personnes qui ont les mêmes sentiments ou qui ont le même souci.
Jean-Luc Duché.
En fait, quand on parle, en sachant que l'autre personne ressent ce que vous sentez, il y a un sort de partage. Vous sentez pas tout seul. L'année dernière, avant la mâchoire serrée, vous avez tout le visage gauche, une petite démangeaison. Elle est inexplicable, personne ne peut comprendre ça, même un psychologue. Et le mec il vous dit, alors qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Si le médecin vous dise, je sais pas qu'est-ce que je peux vous faire pour vous, là vous avez un temps de silence, vous pouvez rien dire.
C'est-à-dire qu'en fait vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'empathie vis-à-vis du médecin et qu'il ne vous écoute pas ou qu'il ne comprend pas ce que vous lui dites.
Tant que, moi je pense cette maladie-là, ou comme d'ailleurs d'autres, tant que vous ne saignez pas, vous n'avez pas un bras coupé, un truc qui n'est pas visible, les gens ne vous croient pas.
C'est vrai. Et l'entourage.
Vous croient, vous êtes. Surtout oui. Ah oui, ça, l'entourage. Et vous êtes fou. Mais c'est normal, vous énervez très vite, vous prenez tout au premier degré. Moi, j'ai vu une émission la semaine dernière, je ne sais pas sur quelle chaîne de télé. Il parlait des conducteurs, les taxieurs et tout ça qui insultent dans les voitures tout le monde. Et ça aussi, ça joue. Ça aussi, il fait partie. Donc vraiment c'est une très bonne émission, surtout parler de cette, je sais pas si je peux dire c'est une maladie, mais autour de vous, vous avez personne qui vous croit.
C'est ce qu'on disait en début d'émission et je voulais qu'on insiste sur l'entourage et de dire à quel point c'est important que l'entourage prenne en compte et prenne au sérieux les gens qui souffrent d'anxiété, faut pas minimiser.
Je me permets de justement. Il faudra que vous parlez à des gens qui n'ont pas de jugement sur vous. En fait, votre entourage, il va encore amplifier la maladie. J'ai essayé de travailler avec mon entourage et tout ça. En fait, ils vont dire parce que tel jour, je m'appelle Mohamed, on est plein maghrébin et on se connaît entre nous. Parce que tel jour, vous n'avez pas fait ou réussi de faire ceci ou cela, c'est pour ça que vous dites que vous n'êtes pas bien. Ça veut dire on mélange quelque part l'entourage, amis ou famille, les choses personnelles à votre maladie. Et ce n'est pas le but. Mais, par exemple, quand on paye un psy, peu importe le prix, c'est parce qu'il n'a pas de jugement sur vous. Tout ce qu'il vous dit, il n'a rien. Moi, ça m'arrive de discuter avec des personnes dans un restaurant, avec des inconnus, qui me donnent des conseils qui sont justes, parce que ces mecs-là ne me connaissent pas.
Alors, Mohamed, il y a énormément d'appels. En tout cas, merci pour la clarté de votre propos et de la confiance que vous nous témoignez. Fouzia est avec nous. Fouzia est à Toulouse. Bienvenue, Fouzia. Fouzia.
Allô.
Oui,
allô,
bonjour, Fouzia.
Allô, bonjour.
Bonjour, Fouzia.
Bonjour, Philippe et monsieur le docteur.
Alors, le docteur s'appelle Jean-Luc Duché. Voilà.
Qu'est-ce alors, qu'on, qu'est-ce que... Jean-Luc. En fait, moi, j'ai un gros souci de à peu près ma naissance.
Oui.
J'étais malade bébé. Et plus je grandissais, surtout quand vers le 4 ans, 5 ans, 6 ans,
oui.
Surtout 6 ans, 7 ans, comme ça. J'ai des crises d'angoisse. Et plus je vieillis, j'ai des passages pénibles.
Oui.
Et maintenant, je suis depuis 95, je suis hémiplégique d'un traumatisme chronique à mes essais. C'est mon ex-mari qui m'a brutalisé.
Oui.
Il est dans le coma. Et depuis, je ne sais plus m'en sortir avec mes crises d'angoisse. J'ai beau prendre des médicaments, j'ai beau souffler par le nez, me détendre, j'ai beau... Et quand je parle, un médecin m'a dit, un psychiatre m'a dit, on ne peut plus rien faire pour vous parce que j'ai jamais été soigné dès le départ.
Il faut qu'il change de métier. Hein, si un médecin dit, on peut rien faire pour vous, changez de médecin. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire à Fouzia, Jean-Luc Duché, qui a l'impression que plus rien ne fonctionne sur elle?
Souvent on va entendre ça. La première chose, mais ça j'allais dire, on peut le donner aux trois personnes qui ont appelé tout à l'heure et maintenant, c'est la respiration abdominale. Mais il ne faut pas se contenter de faire une respiration abdominale comme ça une fois de temps en temps. Moi, ce que je demande à mes patients, et ce que je leur conseille, parce que c'est compliqué de le respecter, c'est de faire 3-4 respirations toutes les demi-heures. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, l'anxiété, elle monte, mais elle redescend toutes les demi-heures, on revient à zéro. Ce qui fait qu'on repart de zéro, une demi-heure plus tard, on
revient... C'est comme une vague.
Exactement. Mmh. Ce qui fait qu'on n'arrive jamais à des niveaux de 8-9 sur 10. On reste à des niveaux relativement... stable et bas, à condition de le faire. Mais la difficulté, c'est d'essayer de respirer toutes les demi-heures, 3-4 fois, par le ventre, lentement. Voilà, ça c'est vraiment le conseil. C'est la première chose à faire sur l'anxiété, à mon idée.
Merci Jean-Luc Duché d'être venu nous voir. Pas parisien en plus. Hein. Vous habitez où ?
Clermont-Ferrand.
À Clermont-Ferrand. On respire bien à Clermont-Ferrand en plus. Bien, votre livre s'appelle « Vaincre son anxiété par soi-même, l'anxiété en 100 questions et réponses ». C'est très très bien fait, vous allez voir. C'est vraiment très clair, donc si vous souffrez d'anxiété ou si vous avez un proche qui souffre d'anxiété, c'est un bon livre qui vous amènera à comprendre le phénomène. L'auditeur, c'est Audi Jacob, merci d'avoir été avec nous. Et demain, c'est l'imam Abdelali Mamoun.
Tous les samedis, ne manquez pas Dessus de table. Dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani, tous les samedis de 9h à 10h sur Beurre FM.